On est de retour maintenant et je veux vous parler, j'allais dire de la loi 21, mais oui, on va parler un peu de laïcité de l'État parce que j'ai lu un statut qui m'a fait grand plaisir ce week-end au sujet de la loi 21. C'est celui du candidat à la direction du Parti québécois, Frédéric Bastien. Il en a trouvé quelques-unes qui sont pas pires, lui, là-dessus. Là. Puis c'est un gars que je connais depuis fort longtemps, que j'apprécie beaucoup. Il a juste un défaut, là, il est péquiste, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y en a dans même des meilleures familles. Là. Mais il explique en quoi on est en train de se faire avoir et que la loi 21 pourrait être charcutée par les tribunaux. Et que même si 70% des Québécois sont favorables à la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État présentée par le gouvernement de la CAQ de François Legault, ben des juges du Canada anglais ou même des juges du Québec pourraient charcuter cette loi-là. Et pour en discuter, ben on va aller le rejoindre. Il est au bout du fil, Frédéric Bastien. Bonjour.
Bonjour.
Donc, en fin de semaine, là, vous en avez sorti une autre. Cette fois-ci, c'est sur un juge anti-laïcité qui pourrait encore une fois porter atteinte à la loi sur la laïcité de l'État. Et pendant ce temps-là, vous trouvez que le gouvernement du Québec, le gouvernement de la CAQ et la ministre de la Justice, Sonia Lebel en particulier, se traînent pas mal les pieds, là.
Oui, c'est ça. Alors, ce qui se passe, qui est passé sous le radar là des médias, c'est que il y avait une juge qui avait été nommée au dossier pour entendre la contestation sur la loi 21 en cour supérieure, et elle a été dessaisie du dossier. Et à la place, on a nommé un nouveau juge. On a dit la juge était trop occupée. Alors, on remplace cette juge par un nouveau juge qui s'appelle Marc-André Blanchard, qui est un juge qui avait entendu une cause sur l'ancienne loi libérale sur la neutralité de l'État, la loi 62, si ma mémoire est bonne. Et ce juge-là avait suspendu la loi en disant que la loi disait qu'il fallait recevoir et donner un service de visage découvert. Et ce juge-là avait dit donc que si le fait qu'on force une musulmane à enlever son voile intégral pour travailler pour le gouvernement, ou si elle recevait un service avec son voile intégral, eh bien, ça allait causer un préjudice irréparable. Irréparable, avait-il dit. Et là, il avait suspendu d'urgence la loi.
Mais comment ça se fait que quelqu'un qui a déjà eu une opinion très tranchée sur un sujet comme celui-là et celui qui est appelé à la rescousse pour juger de la question, c'est pas un peu bizarre?
Ben moi, je trouve ça vraiment bizarre, M. Duhaime, voyez-vous, parce qu'il y a plus de 100 juges dans la Cour supérieure pour la région de Montréal. Et donc, sur la plus d'une centaine de juges, comme par hasard, on tombe sur ce juge-là. Et, comme je vous disais, la raison pourquoi on a transféré le dossier, c'était que l'autre juge était trop occupé. Et la première décision que le nouveau juge a décidé, ça a été, il l'a annoncé il y a quelques semaines au parti, aux avocats, il a dit on reporte la cause, elle devait être entendue en octobre, il reporte ça vers le début décembre. Pourquoi? Parce qu'il est trop occupé. Alors, vraiment, là, je crois pas au Père Noël, là, puis je trouve qu'il y a trop de coïncidences là-dedans pour que ce soit, selon moi, le fruit du hasard. Là.
Par qui a été nommé ce bon juge?
Ce juge-là, je ne sais pas par qui il a été nommé, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a la décision qu'il a prise contre l'obligation de visage découvert. Ça, on sait déjà où il se loge. Donc, à mon sens, pas un hasard que ce soit ce juge-là qui soit mis de la partie.
Et peut-être expliquer aux gens là, qui n'ont pas suivi ça, toutes les démêlées de la loi 21. Il faut comprendre qu'elle est très contestée. Il y a particulièrement des anglophones et des musulmans qui sont pas contents et qui veulent contester cette loi-là devant les tribunaux. Expliquez-nous un peu le processus là, pour essayer de charcuter cette loi-là qui a cours présentement là, devant les juges.
Ben là, d'abord, il y a une procédure pour la suspendre. Alors là, les opposants ont perdu en cour supérieure, en cour d'appel. Et là, ils essaient de convaincre la Cour suprême de suspendre la loi en attendant qu'il y ait un jugement sur le fond. Et là, la Cour supérieure du Québec entend la cause, cette fois, sur le fond. Et là, il y a vraiment un déséquilibre des forces en présence qui est absolument incroyable. Il y a 21 avocats qui sont au dossier, qui représentent différentes organisations, vous en avez nommé quelques-unes, qui sont contre la loi, et il y a 6 avocats qui défendent la loi. Il y a 8 experts qui vont
témoigner. C'est du 4 pour 1, 4 fois plus d'avocats puis d'organisations qui veulent la contester que de gens qui la défendent.
Exactement, okay. Presque 4 fois plus. Il y a 8 experts qui vont témoigner contre la loi et il y en a 4 qui vont témoigner contre la loi.
Ça, c'est pas c'est juste 2 pour 1. Là, c'est 2 pour 1. Ce sont 2 pour 1 plus contre.
Okay. Exactement. Et il y a des intervenants, donc vous faisiez mention de l'Association des Canadiens musulmans, il y a aussi la Commission des droits de la personne du Canada. Il y a différents intervenants qui sont venus se joindre à la cause contre la loi 21 et il y a des intervenants qui sont venus appuyer le gouvernement pour la loi 21. Alors quand vous faites le compte des intervenants de chaque côté, il y a 12 intervenants contre la loi et il y a 4 intervenants pour la loi.
Ça fait que c'est 3 pour 1 ces intervenants, 2 pour 1 ces experts puis 4 pour 1 ces avocats. Ça va bien?
Exactement. Et donc là, les opposants à la loi 21, eux, ils sont fortement mobilisés. Ils ont un bazooka, là, boum, ils vont tirer, ils vont pas se gêner, ils ont l'artillerie lourde, ils ont les meilleurs cabinets d'avocats, ils ont des ressources formidables, ils ont des ressources du fédéral, alors c'est eux, ça va très bien. Et donc, du côté du gouvernement, ben on s'en va à la guerre avec un tire-poids. Alors, et là, donc, il manque de ressources, il y a toutes sortes de lacunes que j'ai pu identifier. Et donc, là, il faut qu'il y ait un coup de barre qui soit donné par la procureure générale, Mme Sonia Lebel.
Mais en même temps, même si les tribunaux la charcutent comme ils veulent, le premier ministre François Legault nous a déjà dit qu'il était prêt à recourir à la clause nonobstant puis la clause dérogatoire pour se soustraire à ce jugement-là. Fait que de toute façon, la loi passera pas, là. La loi sera pas amendée puis elle sera pas diluée, là.
Ben, ce qu'il faut comprendre, M. Duhaime, c'est que la clause dérogatoire est déjà invoquée pour protéger la loi, et ça, c'est très bien. M. Legault a pris une excellente décision à cet égard-là. Mais les opposants sont en train d'inventer toutes sortes d'arguments spécieux. Ils vont faire dire à la Constitution ce qu'elle ne veut pas dire et ils vont utiliser des articles pour l'invalider qui ne sont pas qui contournent la défense de la loi de la clause dérogatoire. Donc la clause dérogatoire, c'est une protection réelle mais imparfaite. Et donc là, ils inventent toutes sortes d'arguments dans les milieux juridiques au Canada anglais, là, et puis là, donc, ils ont, ça tombe bien, ils ont un juge qui va sûrement être très, très compréhensif par rapport à ces arguments-là. Donc, la clause dérogatoire, c'est loin d'être une protection absolue pour la loi 21.
Fait que là, autrement, là, Sonia Lebel, est-ce qu'elle n'a pas encore répondu évidemment à ça, mais elle, c'est son devoir, elle a la responsabilité légale de défendre les lois du Québec, peu importe lesquelles, là, pour assurer sa souveraineté législative. Elle va être obligée de. C'est sa job, là, elle n'a pas le choix, là. C'est pas une question d'idéologie, là.
Non, c'est ça. Ben, le problème, je pense, avec Mme Lebel, c'est que depuis le début du moment qu'il y a eu le débat sur la loi 21, l'adoption, on sent que Mme Lebel, elle est tiède dans ce dossier-là. Alors, on sent que, tu sais, ses convictions dans pour la loi 21 sont tièdes. Et donc, et là, elle fait un peu le minimum en ce moment. Et là, le minimum, c'est pas du tout suffisant. Il faut qu'elle fasse le maximum. Alors, moi, je pense qu'elle doit, donner un coup de barre, elle doit rassurer la population, elle doit nous dire voilà ce qu'on va faire. Donc, il faut qu'elle précise ce qu'elle compte faire pour corriger le tir. Et puis, si elle ne le fait pas, moi, je pense que M. Legault doit la muter à d'autres responsabilités et mettre quelqu'un qui va sauter dans le ring, puis que round après round, il va être rendre tous les coups. Parce que si on n'a pas ce type de personne-là pour défendre la loi 21, on va passer sous le rouleau compresseur.
Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a 3 Québécois sur 4 qui sont favorables à cette loi-là. Puis quand on arrive devant les tribunaux, c'est exactement le ratio inverse en termes d'experts, d'avocats, d'observateurs. Il y a quelque chose là-dedans qui est complètement hallucinant et surréaliste, là.
Ben, voyez-vous, M. Duhaime, c'est un grave problème, à mon sens, au Canada et au Québec. Tous les milieux juridiques sont contaminés par une nouvelle religion, et cette religion s'appelle le multiculturalisme canadien. Et les grands prêtres de cette religion, ce sont les juges fédéraux, en particulier les juges de la Cour suprême, mais tous les juges importants au Canada sont nommés par le fédéral. Donc, les juges de la Cour supérieure du Québec sont nommés par le fédéral, les juges de la Cour d'appel sont nommés par le fédéral, et évidemment, les juges de la Cour suprême sont nommés par le fédéral. Et tous ces gens-là communient à la Charte canadienne des droits et libertés, ça c'est le texte sacré de cette nouvelle religion multiculturaliste, une charte qui nous a été imposée sans notre consentement, et là on tente de s'en servir pour invalider une loi qui a été votée démocratiquement.
En même temps, là, tu sais, pour un séparatiste là, qui veut que le Québec soit souverain puis s'affranchisse du gouvernement fédéral, en quelque part, ça va amener de l'oxygène à votre cause, ça?
Ben moi, M. Duhem, j'ai toujours dit que la politique du pire, c'est la pire des politiques. Et il faut s'élever au-dessus de la partisanerie. Donc moi, en ce moment, je défends, il faut faire passer la patrie avant le parti. Donc je défends une loi qui a été votée par la CAQ, mais le PQ a voté pour. Et j'ajoute que, contrairement aux autres candidats dans la course à la chefferie, moi, je promets de ne pas tenir de référendum durant le premier mandat. Alors, on ne peut pas m'accuser, n'est-ce pas, de dans cette défense de la loi 21, de dire, voilà, j'essaie de réunir les conditions gagnantes. Moi, j'ai été très, très clair. J'ai dit, on doit, dans un premier mandat, forcer une négociation constitutionnelle pour aller chercher, justement, des garanties, des protections pour la loi 21, et on ne doit pas faire de référendum dans le premier mandat, on doit forcer cette négociation constitutionnelle, et le référendum aura lieu dans un deuxième mandat.
Parlons-en de la course à la direction du PQ, là, parce que là, vous êtes quatre candidats, il y a Guy Nantel qui est le dernier en liste, et là, on a l'impression que vous êtes peut-être le candidat le plus nationaliste, le plus identitaire, est-ce que je me trompe?
Moi, je pense que oui. Alors, je suis certainement celui qui a le plus réfléchi à ces questions. Je pense que M. Nantel est quelqu'un aussi qui est assez nationaliste, ouais. J'en doute pas, mais je pense qu'il fait preuve au niveau de la réflexion, au niveau des enjeux qu'il soulève. Moi, je pense qu'on n'est pas du tout au même niveau.
Non, vous êtes quand même les deux différents des deux autres. Là, si je regarde Godreau puis Paul Saint-Pierre Plamondon, là, c'est des chic types, là, très gentils, mais ces deux gars-là pourraient se ramasser à QS d'un matin puis il n'y a pas personne qui verrait de différence. Il y a quand même un fossé, je trouve, entre Nantel, vous d'un bar, puis ces deux-là de l'autre. Là.
Ben, je pense que sur la question identitaire, oui, je pense que moi et M. Nantel, on est plus proches que M. Godreau et M. Plamondon. Là. Mais, voyez-vous, sur la question de l'immigration, moi, je propose de réduire le nombre d'immigrants de 25 à 30 000 par année. M. Nantel, lui, parle de 50 000 à 55 000 immigrants par année.
Ça, donc, c'est le statu quo.
Ben, ce serait plus, en fait. Ce serait plus que ce qu'il y avait sous les libéraux et ce serait plus que ce que la CAQ fait en ce moment. Alors qu'on reçoit en ce moment au Québec, par habitant, presque deux fois et demi plus d'immigrants que la France et presque deux fois plus d'immigrants par habitant que les États-Unis, alors que nous sommes une minorité dans le Canada. Alors, est-ce que notre capacité d'accueil et d'intégration des immigrants est deux fois plus grande que celle de la première superpuissance du monde? Puis est-ce que notre capacité d'accueil est deux fois et demi plus forte que celle de la France? Ben, comme dit le proverbe, poser la question, c'est y répondre.
Oui, c'est y répondre. Quand on regarde les chiffres de façon froide et objective, sauf que ce débat-là, à chaque fois qu'un politicien ose soulever des questions ou soumettre des chiffres sur la place publique, il se fait dépeindre automatiquement comme un raciste, un xénophobe, un islamophobe. Vous n'avez pas peur que ça vous arrive?
Ben, c'est déjà arrivé là sur les réseaux sociaux. Là, Xavier Camus s'en prend à moi et tout ça.
Tout ce qui est à gauche de QS, on est tous des racistes, des islamophobes, des xénophobes pour lui. Là.
Ah non, mais j'ai même été appelé Führer Bastien. Ah, c'est vraiment. Non, juste pour vous dire là. Alors moi qui suis un grand ami du peuple juif, j'ai allé trois fois en Israël. J'essaie d'apprendre l'hébreu. Puis là, on m'accuse d'être Führer Bastien. C'est vraiment.
C'est
mais écoutez, moi c'est important cet enjeu-là. Il faut faire ce débat-là. Sereinement, il ne s'agit pas de blâmer les immigrants qui sont ici. Moi, je blâme le gouvernement de la CAQ et l'ancien gouvernement libéral d'avoir des politiques d'immigration qui sont irresponsables. Donc, moi, je veux faire ce débat-là calmement, sereinement, mais fermement. Donc, il s'agit d'avancer, puis on va m'attaquer, mais moi, ça ne me fera pas reculer, je peux vous l'assurer.
Frédéric Bastien, candidat à la direction du Parti québécois, merci beaucoup de nous avoir jasé aujourd'hui.
Merci, M. Duhem.
Au revoir.
Au revoir.